Quelle est votre plus grande ambition dans la vie?
Devenir immortel. Et puis, mourir.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
On a tout vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
On a tout vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Le Stetson, les Ray-Ban, le fameux trench coat ceinturé et une voiture de préférence américaine. Bref, un personnage et un nom qu'il s'est inventé, Melville, un homme et un cinéaste fascinant. Bonjour tout le monde, sans Laurent aujourd'hui, mais il reviendra dès la semaine prochaine. Pas d'inquiétude, on l'embrasse. Lui aurait eu 100 ans aujourd'hui, Jean-Pierre Melville, né Jean-Pierre Grimbach en octobre 1917, presque 45 ans après sa mort, reste une œuvre unique, 13 films, du Silence de la mer en 47 à Un flic en 72. Entre ces deux dates, un cinéma exigeant, stylisé, épuré, crépusculaire. Et cet homme, qui n'avait pas d'enfants, mais des fils de cinéma. Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Vous êtes l'un de ceux-là, c'est lui Melville, qui a convaincu vos parents de vous laisser faire du cinéma. Et vous l'êtes devenu cinéaste, cinéphile, amoureux. On pourra aussi découvrir donc sur Ciné Plus, à partir d'octobre, 8 nouveaux épisodes de votre voyage à travers le cinéma français. À vos côtés, pour célébrer ce centenaire, l'auteur d'un grand et beau livre, Jean-Pierre Melville, Une vie. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Un livre édité au Seuil, mais aussi chez Studio Canal, un coffret presque intégral dont vous signez le livret. Les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, Binoche et Claire Denis plus Angot, Les espèces menacées de Gilles Burdos, un polar Money, une bio, le jeune Karl Marx et un indépendant américain, Stupid Things.
D'où vous vient cette démarche solitaire que vous avez dans la vie?
De la méfiance, de la crainte.
D'un complexe?
Certainement, sûrement, je ne peux pas le savoir, mais c'est sûrement ça. Ça ne peut pas s'expliquer autrement, je crois que l'homme est fait pour vivre au milieu des hommes, et puisque je n'en ai pas envie et que je n'aime pas, c'est donc qu'il y a quelque chose.
Vous savez ce qu'est ce quelque chose?
Absolument pas, ça ne serait plus un complexe.
Mais ce personnage, vous êtes seul à l'avoir créé?
Mon personnage?
Oui.
Ah, bien sûr. Mais est-ce que je l'ai créé ou est-ce que je suis simplement ce que je suis? Parce que je crois pas avoir pris tellement de soin à me créer un personnage. Je crois que j'ai plutôt été tout bêtement ce que j'étais fait pour être. Enfin, un peu une brute fonçante dans certains cas et le reste du temps, un animal terré dans sa tanière qui ne sort pas et qui n'aime pas se montrer.
C'est peut-être là quel personnage, le véritable personnage Melville? C'est-à-dire pas de compromission avec le monde?
Ah non, ça absolument pas.
Pas de concession, pas de compromission?
Non, non.
Jean-Pierre Melville, chez Jacques Chancel, radioscopié en 1969, donc avant d'évoquer son cinéma, un portrait de l'homme, et d'ailleurs les deux se confondent, un loup solitaire qui ressemble finalement à beaucoup de ses personnages, Antoine Debecq.
Oui, je pense que quand Melville dit qu'il n'a pas créé un personnage, je pense qu'il a créé effectivement un personnage et qui est un personnage, le premier héros melvillien, c'est comme on les appelle, c'est lui-même, ça c'est sûr. C'est vrai que le personnage est assez fascinant et surtout ses secrets font que on a envie d'aller un petit peu fouiller. Et c'est un petit peu pour ça que ce livre intervient, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui sortent de la vie de Melville, je dirais presque. Enfin, et qui ont nourri un peu cet ouvrage.
Bertrand Tavernier, vous vous dites, Melville, c'est l'homme qui m'a fait le plus peur de ma vie.
Dans le travail.
Oui,
dans le travail,
sûr.
Sur un plateau. Quand j'étais très très jeune, très timide, j'arrivais, etc. Et que c'était terrible de rentrer sur le plateau de Melville. C'était terrible. J'avais l'impression que j'allais chez le dentiste, voilà, que j'allais m'extirper les dents. Mais dans la vie, en dehors de ça, c'était un homme chaleureux, intéressant, touchant, passionné, qui m'a fait découvrir plein de films, qui me prenait en charge, qui me prenait littéralement en charge. Je ne le quittais pas de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin, puisqu'il aimait pas dormir.
Oui.
Donc, tout le temps, tous les jours. Je pense qu'il est complètement sincère quand il répond aussi qu'il ne l'a pas créé, que c'est aussi lui, ce personnage, c'est lui. C'était profondément lui. Alors il a créé quelques signes extérieurs, les bagnoles américaines, ouais. Le Stetson, mais sa vie, c'était lui, ce que ça représentait, ses goûts, ses passions, c'est aussi quelque chose qui est très très organique, qui n'est pas fabriqué. Qui n'est pas du tout fabriqué. Ça, c'est ce qui fait, je trouve, parfois, la force de ses meilleurs films.
Et la chose importante, c'est l'Amérique, bien sûr, et le cinéma américain qu'il a découvert assez jeune. Il est devenu un véritable boulimique de cinéma.
Oui, on peut dire que Melville a été un des premiers, comme ça, à connaître aussi bien le cinéma américain, puisque ça commence dès avant la guerre, dans les années 30. Mmh. Sa fameuse liste des 63.
Oui, qui est assez barjot.
Oui, un peu barjot.
Elle est assez barjot, parce qu'il n'y a pas Raoul Walsh. Il n'y a pas Raoul Walsh. Il n'y a pas des cinéastes. D'ailleurs, quand vous dites Alan Dwane a plié la série B, Alan Dwane a été un des plus grands, importants metteurs en scène au temps du muet.
Bien sûr,
c'est
ouais.
Plus compliqué que de dire dans la série B. Mais sa liste, il y a des gens nuls dans la liste. Des gens totalement académiques, ouais. Et il omet un certain nombre de metteurs en scène. Petit correctif, beaucoup de cinéastes français étaient des très bons connaisseurs du cinéma américain. Quelqu'un comme Jacques Becker, je pense, avait autant de connaissances que Melville. Henri Decoin était un grand connaisseur du cinéma. Et des gens avant, Pierre Chenal connaissait parfaitement le cinéma américain, même Jean Sacha, qui écrivait sur le cinéma américain. Il écrivait, il défendait aussi bien Ruben Mamoulian que Raoul Walsh, qu'Alan Dwane.
Sauf que Melville a extrêmement bien ingéré ce cinéma américain un cinéma très original et complètement unique, le sien.
Absolument, je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que Melville, il y avait le cinéma américain, mais il y avait aussi autre chose, quoi. Il y avait la littérature, hein, ça a été un grand, son nom évidemment vient de là aussi. Il y avait aussi son goût du cabaret, du cirque, hein. Ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert dans les photos par exemple qui illustre sa jeunesse, hein. Son oncle Arthur, qui était un grand antiquaire, l'amenait énormément quand il était gamin, adolescent, à la fois voir des chanteurs américains, ça c'était quelque chose de très important, mais aussi voir toutes les danseuses qu'on retrouve par exemple dans son cinéma. C'est une sorte de fil rouge comme ça, ces scènes de danseuses de cabaret. Bon, c'est des choses qui remonte de l'enfance.
Et on va faire un petit chapitre sur sa guerre, parce qu'elle est très importante, parce qu'elle va imprimer tout son cinéma, notamment avec l'idée de trahison qui va traverser toute son œuvre. Il a aimé la guerre, Bertrand Tavernier.
Il a aimé la guerre, il nous en parlait très peu. On faisait cette réflexion avec Volcker, on l'a côtoyé quand même beaucoup. C'est très tard, c'est grâce au film d'Olivier Boller que j'ai découvert certaines choses dont il parlait très peu. Si, dans une ou deux émissions de télé, il a dit que la meilleure période de sa vie, c'était la guerre. Mais il était plutôt muet sur cet engagement qui a été extrêmement fort, extrêmement physique. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne se vantait pas du tout de ce qu'il a vécu dans les Pyrénées, en Espagne. Alors, moi, je connais un autre cas comme ça de metteur en scène qui a eu une vie très violente, très incroyable, et qui n'en a jamais dit un mot, qui est Henri Decoin. Mmh. Et il y a une sorte de mutisme, comme si ce qu'ils avaient fait était tellement fort et exceptionnel qu'il fallait pas s'en vanter. Mmh. Et c'est aussi une des clés de l'œuvre de ces deux cinéastes.
Exactement ce que j'allais vous dire, Antoine Debecq, parce qu'en fait, il sait, de ces héros qu'il a rencontrés, du sens de l'honneur, etc., il l'a presque greffé au code des truands qu'il a par la suite filmé.
Oui, de ces héros qu'il a été, c'est quand même ça que je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est-à-dire que Melville c'est en partie construit un personnage, voilà, avec tous ces signes extérieurs, le Stetson, les Ray-Ban, mais ce qui est, donc on pouvait penser qu'il vivait dans une sorte de mythologie, et il vivait dans une mythologie, mais en même temps tout ce qu'il disait était vrai, et donc il l'a peu dit effectivement. Oui. Mais ce qui est passionnant, c'est que depuis quelques années, donc grâce aux archives qui sont sorties, Olivier Boller et qui a été voir par exemple les archives qui sont au fort de Vincennes, hein, les archives militaires, on a retrouvé tous les actes d'engagement de Melville. Par exemple, le plus étonnant, c'est celui qui est daté du 16 août 1943, un acte d'engagement dans les forces françaises libres, où il dit « Je désire servir sous le nom de Melville Jean-Pierre ouais. ». Donc on a là toutes les preuves de l'engagement de Melville, qui a été quelque chose de évidemment constitutif pour lui. C'est un engagement dans la résistance d'abord... en France, à Marseille, notamment, à Castres, ensuite.
Oui, il a beaucoup de
voilà, il traverse les Pyrénées à la suite de son frère, de son grand frère Jacques, qui meurt dans cette aventure. Donc, c'est, là aussi, c'est quelque chose de très important. Et puis ensuite, il passe à Londres, et là, il s'engage dans les forces françaises libres, et il va faire la campagne d'Italie, la campagne de France, et il est blessé à l'automne 1945, en Alsace, pendant la campagne de France. Et donc, il passe 8 ans, et c'est important, hein, 8 ans de suite comme soldat, hein, depuis 37 où il s'est engagé dans l'armée française jusqu'en 45, 8 ans. Et ces 8 années, elles sont ensuite il ne cessera de, en quelque sorte, de d'être fidèle à cet engagement-là et à ce qu'il a vu à ce
militaire dans son œuvre pratiquement.
Sauf le défilé au début de.
Mais c'est militaire allemand.
Oui, bien sûr.
Des militaires allemands.
D'ailleurs, il y a une histoire incroyable à ce propos. Le défilé, il l'avait mis à la fin. Il a décidé de le mettre au début, mais quand le film était déjà sorti, donc, son chef opérateur a dû intervenir dans les salles pour intervertir les bobines.
Mais ça arrivait tout le temps dans les films de Melville. Moi, je l'ai accompagné dans les cabines de projection quand il faisait des changements dans le montage. Ouais. Moi, il y a 10 minutes de l'Armée des Ombres que j'ai jamais revu, que j'ai vu le premier jour, j'étais à la première séance, et quand j'ai tombé sur Melville, il a coupé, il a fait des coupes dans la copie, dans la cabine du Georges V.
Parmi les grandes rencontres de Melville avec cet acteur Alain Delon, qu'il a déifié d'ailleurs, Delon est devenu ensuite un dieu au Japon après le samouraï, je vous propose d'écouter Delon évoquer la jeunesse du samouraï.
Alors, l'idée du samouraï...
Le personnage vous colle maintenant tellement à la peau.
Non, il l'a écrit pour moi, il l'a souhaité, il est venu me le proposer sur la pointe des pieds, il n'osait pas. Et il m'a fait dire un jour qu'il aimerait bien me lire quelque chose, parce qu'il avait une idée de film dans laquelle il me verrait bien, etc., etc. Et je me souviens très très bien, je vais vous raconter comment est né le samouraï, enfin comment l'acceptation est née. Il est venu un jour, j'habite avenue de Messine, avec son grand chapeau, il était là, je me souviens, dans mon salon, pour me faire la lecture. Et il a commencé... J'étais avec ma femme, d'ailleurs, qui était Nathalie, à côté de moi, et il a commencé à me faire la lecture du scénario. Et puis, au bout de 4 ou 5 minutes, je crois, je n'avais pas encore dit un mot. Et je lui ai dit, arrêtez Jean-Pierre, c'est d'accord. Ça s'est passé comme ça.
Parce que vous n'aviez pas de dialogue, donc c'était exclusivement...
Voilà, ouais. Absolument. J'ai dit, n'allez pas plus loin, c'est d'accord. Non, parce que dès le premier mot, dès la première ligne, il y avait le verbe de Jean-Pierre,
déjà.
Tout était là, je veux dire, parce que lui, c'était un homme de cinéma. Lui, il avait toutes les qualités, et en plus, il faut bien le dire, c'est pas pour retirer aux autres, mais en plus, il écrivait. Lui, il avait les 3 qualités essentielles de Clément, de Lucchino, mais en plus, il avait l'écriture.
Dans Le Samouraï, il a filmé, vous l'écrivez d'ailleurs Antoine Debecq dans votre livre, un peu comme un metteur en scène hollywoodien filmerait une star. Il était fasciné par le physique de Delon.
Il était fasciné par Delon.
Il approchait la cicatrice juste en bas du menton, mais comme il leur aurait parlé d'une femme, finalement.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte de rencontre amoureuse qui s'opère dans ce que Delon vient de raconter, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui est une sorte de fascination mutuelle, de coup de foudre mutuel. En même temps, c'est un coup de foudre qui a été préparé, parce que ça faisait longtemps que Melville, comme souvent, voulait tourner avec... Melville a toujours voulu tourner avec des grands acteurs. Hein. C'est quand même quelque chose qui est une des caractéristiques aussi de son cinéma, et c'est ça qui je pense aussi, il y en a pas tellement de grands cinéastes en France comme Melville qui ont la capacité et le désir de tourner avec les plus grands acteurs populaires. Et donc ça c'est quelque chose que Melville faisait partie des fondamentaux de son ambition de cinéaste. C'était de tourner avec les plus grands acteurs.
C'est drôle, Bertrand Tavernier, au début du film, il y a cette citation, il n'y a pas de plus profonde solitude solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle peut-être. Mais ça, c'est une citation inventée par Melville.
Il inventait constamment des faux proverbes asiatiques. C'était sûr. Sur les acteurs, je pourrais dire oui, il est fasciné par Delon, mais il a toujours eu un rapport très très fort, très physique avec les acteurs avec lesquels il voulait tourner. Belmondo, il avait une adoration de Belmondo jusqu'à La Brouille. Et Lino Ventura, idem.
Et ben justement, on va écouter La Brouille parce qu'on l'a découverte dans votre merveilleux voyage à travers le cinéma français. Donc, c'est Belmondo qui engueule Melville sur le tournage de L'Aîné des Fers Chauds, parce que lequel Melville s'était mal comporté.
Melville avait... quand il était admiratif de quelqu'un, technicien ou acteur, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'il prenne en grippe. Et là, pour des raisons absurdes, illogique. Il avait pris Vanel en grippe. Vanel, qui est un des plus grands acteurs français, qui n'a jamais été mauvais de sa vie, il le détestait. Et Belmondo, qui adore les acteurs, oui, a réagi très très violemment.
C'est une heure moins le quart maintenant.
Eh bien, oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre, et jusque-là, j'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol.
Et moi, je suis un guignol.
Ça fait une semaine que j'attends.
Et moi, je suis un guignol.
Hier, j'attends de 8 heures jusqu'à 11
heures. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse.
J'étais dans ta baignoire.
Quand ça?
Je suis pas un couillon, moi.
Quand?
Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, gère ses boutons de manchet. Et bah, ça, j'en ai marre.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Parce que moi, je vole jamais, mais j'en gueule, j'en ai
incroyable ce document.
Hein, ah ouais, les boutons de manchette, c'est typiquement Melville, quoi. Voilà, tout le monde l'attend sur son propre plateau, et il va chercher ses boutons de manchette.
Il arrivait toujours à la dernière minute. C'était un insomniaque. Donc, contrairement à des tas d'autres metteurs en scène de sa génération, c'était pas quelqu'un qui arrivait 2 heures avant, 3 heures avant. Et quand une chose n'allait pas, il fallait qu'il trouve un responsable. Et il l'emplafonnait en public. Ça, c'était le truc que je détestais chez Melville, c'est que les humiliations étaient toujours publiques. Toujours. Ouais. Je l'ai vu, mais assassiner, détruire devant moi le décorateur de Léon Morin-Prête sur un papier peint, et Melville lacérait au rasoir devant toute l'équipe. Et ça, c'était quelque chose, je me disais, moi, mais c'est je sais pas, c'est pas comme ça il suffisait qu'il vienne une heure avant, qui disent qu'il n'était pas d'accord, tout aurait été changé. Et voilà. Ça, c'est le côté... Alors, Dieu sait s'il y a des choses que j'admire chez Melville, mais ce comportement, c'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter.
Delon, le samouraï, le film a influencé, vous le dites dans votre livre, vous y consacrez même un chapitre, Antoine Debecq a influencé beaucoup de metteurs en scène, et notamment John Woo.
Oui, c'est sûr que le cinéma de Melville est revenu, en quelque sorte. Quand Melville meurt en 73... C'est dans une il y a une forme d'indifférence, il y a une sorte de grand désert. Moi, j'ai cherché la presse de l'époque. Alors peut-être qu'à l'époque on n'enterrait pas comme on enterre aujourd'hui en faisant des biographies ou des nécrologies dans les journaux aussi importantes, mais on trouve quelques petites notulettes, et il faut à peu près une bonne dizaine d'années pour que Melville revienne, et il va revenir effectivement par l'Asie, par Hong Kong beaucoup, hein, par John Woo, par Johnny To, et puis par l'Amérique.
Oui,
par,
les Cohen un peu aussi.
Les Cohen, Tarantino, ouais. Tarantino, et évidemment...
Michael Mann.
Oui, Michael Mann.
Et Tarantino, par exemple, a dit, et il y a une très belle archive où Volker Schlöndorff est complètement abasourdi, Tarantino lui dit un jour...
Schlöndorff avait dit l'assistant, faut le préciser.
Voilà, qui était l'assistant de Melville, Tarantino qui est tout jeune cinéaste, lui dit « Mon film préféré, c'est le Doulos. » Et Schlöndorff dit « Mais ça existe une copie du Doulos en Amérique ?» Oui, ça existe. C'est passé beaucoup par Delon, ça vous avez raison. C'est-à-dire que, notamment en Asie, ouais. Delon est devenu une star, ouais, aussi beaucoup par Melville. Et donc, il y a une sorte de contamination, en quelque sorte, qui fait que tous les grands cinéastes d'action, notamment de Hong Kong, ont visionné, ont été biberonnés, en quelque sorte, au samouraï. travail ou au Cercle Rouge. Et donc, ça laisse une impression, une trace très profonde sur le cinéma de Hong Kong.
Si je vous passe le Cercle Rouge, Bertrand Tavernier, vous aimez ce film ou
non, pas? Non, pas de J'aime pas beaucoup. J'aime bien le Samouraï. J'aime pas beaucoup le Cercle Rouge. Je trouve très solennel et très très vide et pas souvent très bien joué, notamment par.
Attendez, vous allez voir. Illustration avec cette scène incroyable quand même avec Bourville à contre-emploi.
Oui.
Inspecteur Mattei.
Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez aller? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas.
Monsieur l'inspecteur général, mon directeur vient de vous dire que seule la chance peut rattraper vos gels, dorénavant. La chance est moi, en vérité.
Monsieur Mattei, je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Par contre, permettez-moi de me montrer sceptique quant à l'efficacité dont vous faites preuve dans l'arrestation des coupables.
Mattei a les meilleurs états de service de toute la PJ depuis 15 ans.
Mais la belle affaire, on change en 15 ans. Croyez-vous que je sois resté le même depuis 1955? Nous changeons tous en mal.
Je suis tout prêt à offrir ma démission, c'est...
C'est trop facile. Au contraire, je vous charge de retrouver vos gels par tous les moyens. Et quoi qu'il vous en coûte. Vous le connaissez mieux que personne dans la maison. Un voyage à deux, en wagon-lit, ça crée des liens. Même un voyage interrompu.
Bien. Je le retrouverai.
J'en suis absolument certain.
Je vous le souhaite à tous les deux. Puisque vous vous portez garant de votre subordonné, mon cher directeur.
C'est exact. Je m'apporte garant.
Et n'oubliez jamais, tous coupables.
Même les policiers.
Tous les hommes, monsieur Mattei.
Il plaisantait ou il croit ce qu'il dit?
Il y croit. C'est sa grande idée. Le crime vit à l'intérieur de tous. Il suffit de le débusquer.
Curieux homme.
Un homme redoutable.
Morale extrêmement pessimiste, question à tous les deux quand même. Hein.
Oui, ben Melville n'est pas un grand optimiste. Hein. C'est, je pense que
avec la mort au bout du chemin souvent.
Oui. Ça c'est quelque chose qui est une sorte de constante de son cinéma. Le héros melvillien meurt. Ça c'est une évidence. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond. Tous les films de Melville sont visités par une mélancolie hein, qui est aussi celle de la propre existence de Melville. Moi, je plaide pour cette interprétation, disons autobiographique du cinéma de Melville. Hein. C'était un homme qui donc vivait beaucoup de son temps enfermé
dans le noir,
dans son studio, et qui ne cessait de sa vie d'une certaine manière de héros. Elle s'est arrêtée en 45. Et alors, bien sûr, ensuite le cinéma était là. Et le cinéma était en quelque sorte là pour essayer de prolonger quelque chose qui s'était arrêté. Et donc, il y a dans tous les personnages de Melville, de Bob le Flambeur au samouraï, il dit pas grand chose le samouraï, mais les quelque chose qu'il dit, c'était mieux avant aussi. Hein. Il y a quelque chose, voilà, une profonde. Quelque chose s'est brisé à un moment et on vit depuis sur une sorte de prolongation presque un peu fantomatique de la vraie vie, ça c'est sûr.
Oui. D'ailleurs, Bertrand Tavernier, il a attendu 25 ans avant de tourner ce film que vous adorez, qu'on adore tous, qui est L'Armée des Ombres, qui est qu'on peut dire le plus grand film sur la résistance française.
Certainement, en tous les cas, un des plus grands films, et un film, je crois, profondément personnel et extraordinairement fort. Et Melville, qui sortait du studio, il se baladait souvent la nuit, et moi le nombre de fois où je l'ai accompagné, c'était pour évoquer les périodes de la résistance où se cachait un tel dans Paris, où travaillait tel truand, comment le commissaire Viot, ou je sais pas trop, avait là, et dans le studio, attention, il ne voyait pas que des films américains, il voyait tous les films français, et il avait des coups de cœur. Moi j'ai vu La Ligne de Mire de Jean-Daniel Paulet chez lui. Oui. Puisqu'il s'était fait envoyer la copie, parce qu'il adorait Pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc il a vu ça, il a haï La Ligne de Mire, là, mais c'est un film qui n'est jamais sorti, Donc, mais je l'ai vu chez Melville. La métamorphose des cloportes, qu'il adorait. Ça, c'est un film, il avait envoyé un grand mot à Granier de Fer, il trouvait que le film était extraordinaire, La métamorphose des cloportes, où, comme ça, il voyait, il faisait livrer beaucoup, 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 beaucoup de films, avec des réactions très, très violentes. Moi, il m'a fait mettre en quarantaine sur le plateau, parce que je l'avais conseillé de voir Les contrebandiers de Moonfleet. Et qu'il avait haï. Et donc, personne dans l'équipe n'a eu le droit de me parler pendant une semaine parce que il disait Bertrand m'a envoyé voir un film que j'ai détesté et il m'a jamais pardonné
et quel film
oui et il m'a jamais pardonné de l'avoir emmené voir Johnny Guitar aussi. Il en parlait encore 5 ans après en disant il m'a emmené voir cette horreur absolue qu'est Johnny Guitar, qui est un film ignoble et tout ça et tout. Il en parle à Rui Noguera, c'est la première chose qu'il dit quand il dit
ça. On va vous faire écouter L'Armée des Ombres, un extrait avec Lino Ventura face à Paul Meurice qui tente de régler le sort de Mathilde, incarnée par Simone Signoret.
Mais c'est vous. C'est vous. Je voulais parler un peu avec vous.
Depuis quand êtes-vous revenu ?
4 jours. Depuis l'arrestation de Mathilde.
Mathilde ?
Nous devons parler d'elle ce soir. Nous le devons, Philippe. Mathilde a été arrêtée le 27. On ne lui a fait aucun mal. Elle a tout de suite trouvé le moyen de nous le faire savoir. La Gestapo a très vite retrouvé son identité véritable et le domicile de sa famille. Comme par malheur, Mathilde avait conservé sur elle la photo de sa fille. Vous devinez le reste.
La photo ?
Mais c'est la seule faute que Mathilde ait commise. Les Allemands ont senti tout de suite le point de rupture possible de cette femme extraordinaire.
La photo ? Mais comment a-t-elle pu la garder ? Je le lui avais dit.
C'est merveilleux, Philippe. Elle a supplié les Allemands de lui rendre cette photo.
Comment ça ?
Nous avons reçu un SOS de Mathilde. Les Allemands lui donnent à choisir. Ou bien elle livre tous les gens importants qu'elle connaît chez nous, ou bien sa fille sera envoyée en Pologne, dans un bordel pour soldats revenus du front russe. Telles sont les données du problème. Je suis venu chercher la solution auprès de vous.
Antoine Debecq, vous le signalez aussi dans votre livre, il y a un truc très important à comprendre avec Melville, c'est le refus radical de psychologie.
Oui, je pense que les personnages melvilliens sont à la fois, sont des personnages qui ont une psychologie, mais qui n'en font pas. C'est ça qui est intéressant chez Melville. Je pense que, et on l'entend très bien dans cette scène, c'est-à-dire que il n'y a pas, il y a un fait. Mathilde est devenue un danger pour le réseau, et donc il va falloir l'éliminer. Il y a le film représente ça de façon implacable. Donc les états d'âme, disons, n'ont pas lieu d'être. Ces personnages sont comme ils sont, et donc le film doit se terminer par l'élimination Mathilde.
Tout cela est dans votre très beau livre qui s'appelle Jean-Pierre Melville, Une vie éditée au Seuil. Et Bertrand Tavernier, vous, parallèlement, vous sortez, vous avez sorti déjà il y a 2 ans, il y a 1 an et demi au cinéma, Voyage à travers le cinéma français, et là, grâce à Ciné+, on va découvrir à partir d'octobre, 8 épisodes sur vos cinéastes préférés. Tiens, on va vous passer un petit extrait d'Henri Decoin, j'aime beaucoup ce qu'il dit.
Je crois que pour durer, il faut avoir peur. Il faut avoir peur constamment. Il faut avoir peur de la critique, naturellement. Il faut avoir peur du public. Il faut avoir peur de la censure. Moi, voyez-vous, je plains ceux qui n'ont pas peur. Je crois que une carrière de cinéaste est faite de modestie, d'humilité. Et c'est, je crois, comme ça qu'on peut arriver à quelque chose de gentil.
tout n'avait pas été dit dans votre film, donc il reste tellement de personnalités, donc en dehors de Decoing, Ophuls, Grémillon, Becker, Renoir, mais également des thématiques autour de la Seconde Guerre mondiale, de la musique, et puis un focus sur Jean Gabin, sur Melville bien sûr, sur Marcel Carnet. Vous êtes allé épuiser, je veux dire, vous avez une cinématographie, une cinéphilie tellement énorme. Ça, c'est comment se sont opérés les choix finalement, Bertrand Tavernier?
Ça a été très très difficile. J'ai une cinéphilie, mais qui est provoquée par l'extraordinaire richesse de tout un cinéma.
Ouais.
Qu'on évoque, je trouve, pas toujours très bien, et en laissant des grands pans dans l'ombre. Par exemple, les musiciens, les compositeurs sont les gens qui sont les plus ignorés. Et ça a été des gens extraordinaires et qui avaient des rapports intimes avec les réalisateurs. Duvivier avec Jacques Ibert, par exemple, il y a des correspondances formidables. Donc voilà, d'essayer d'évoquer tout, et puis des cinéastes méconnus, cinéastes qui avaient été, je sais pas, Pierre Chenal, Henri Calef, Jacqueline Audry, qui a été traitée avec une certaine goujaterie. C'était la première femme qui a réussi à faire un corpus de films dont certains parlaient de la jouissance féminine au début des années 50, ce qui était absolument n'existait dans aucun cinéma au monde. Et Jacqueline Audry, il y a au moins 4-5 films qui sont intéressants d'elle. Et c'est vrai que les gens de la Nouvelle Vague ont été un peu mufles avec les femmes. Il a fallu Varda pour arriver à ce que mais c'est Jacqueline Audry qui a ouvert les portes de ça, et je trouve qu'il faut la remercier. À une époque où, je le montre, il y a un témoignage, on demandait aux gens à l'IDEC de ne pas accepter de femmes metteurs en scène.
C'est fou, ça. Hein, oui. Et votre dernier épisode s'arrête, en fait ça s'arrête quand vous devenez cinéaste.
Ça s'arrête. Le dernier couvre un peu mes années attachées de presse, qui me permettent de parler de metteurs en scène plus contemporains qu'on a défendus avec Pierre Rissian, de Jacques Deray à Claude Chabrol, en passant par Jean-Daniel Pollet, comme L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient des films engagés, et ces films n'existent plus, Christian Challonge, Bernard Paul, il y a eu un corpus de films comme ça, sociaux, qui n'a pas été restauré, et c'est un petit peu dommage.
Tout cela sur Ciné Plus à partir d'octobre, 20 thématiques, 90 films, 8 épisodes, bref, ça va être énorme et très important. On se retrouve pour les sorties juste après ça.
How successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, messed up little goat spitting on your horrible hill. And you can't ship me out, 'cause you can't catch me, 'cause you're too slow. No one cares. I'm Miami. I don't think you know who I am. I'm the sausage man, the shadow licker. Ghost that features in your despondent moments, the timeless whisper, the glassy dude. I'm the sides of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love, but I'm here to stay. We'll be right back.
sleeper. I'm the bookkeeper. I'm the vicar. I'm the main course. I'm Morgan Freeman. I come master of neon angels. I'm the night chef. The eye doctor. Mr. Maserati. I'm king of the migraines. Soiled lord of tears. I'm the urban goose. I'm a river of dead fish. I'm Miami.
Sortie de ce mercredi avec vous, Thomas Borès, qui est remplacé pour cette semaine, Laurent Delmas. Bienvenue à vous.
Bienvenue.
On va commencer avec un beau soleil intérieur. Claire Denis se lance dans la comédie avec Christine Angot, manette scénaristique pour raconter une femme, Isabelle Sébinoche, divorcée qui cherche un amour, enfin un vrai amour. Passeront des hommes une galerie de dragueurs, infidèles, lâches, et face à eux, le combat d'une femme contre les défaites, la solitude et les déceptions.
C'est très bien dit, c'est un film fragmentaire, puisque c'est oui. librement inspiré des fragments du discours amoureux de Roland Barthes, œuvre à la fois somme, totémique, mais aussi ludique, il faut le dire aussi. Et c'est vrai qu'avec Christine Angot, qui a donc coécrit le film, ils sont partis de ça, et donc effectivement pour filmer des petites scènes, des bouts de scènes, à chaque fois cette quinca qui est jouée par Juliette Binoche va rencontrer des hommes, effectivement vous l'avez dit, différents. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est surtout moi ce qui m'a vraiment plu au-delà même du sujet, c'est ce que fait Claire Denis toujours très bien, c'est-à-dire le travail sur le corps, très sensuel, et il y a une vraie rencontre entre la caméra de Claire Denis et le visage et les émotions de Juliette Binoche. C'est vrai qu'on dit toujours Juliette Binoche est exceptionnelle, c'est un peu comme Isabelle Huppert, et ben elle l'est vraiment. Et c'est vrai que quand il y a une grande cinéaste qui la regarde, et ben le film nous regarde aussi. Voilà, c'est un très beau film.
L'ouverture est incroyable. C'est quand Binoche est au lit avec son amant d'un jour et lui demande de jouir assez vite.
Voilà, et c'est des larmes qui arrivent. Ouais. Effectivement, on commence sur quelque... La chair est triste. L'émotion aussi. Et vous parlez de l'ouverture et la clôture et du film. On ne dira rien.
Avec Depardieu.
Avec Depardieu. Juste ça. C'est vrai que le film s'ouvre et se termine.
Bertrand Tavernier fait
de manière fabuleuse. Formidable. Mais entre-temps, il y aura eu Nicolas de Vauchel ou encore Philippe Catherine.
Et ou encore également Podalydès dans une super scène au restaurant.
Super scène au restaurant, ouais, c'est vrai, on parlait tout à l'heure des rencontres parfois dans un restaurant, qu'est-ce qui s'y passe et tout ça, et une déception amoureuse entre deux personnes. Eh bien oui, là, il est comme ça, et même on le voit aussi à un moment à la campagne aussi, avec d'autres personnes, et c'est une scène très drôle, on se manque des bobos parisiens.
Très Angot la scène. Hein,
très Angot,
très, très, très Angot. Le jeune Karl Marx, Raoul Peck, 1844, de toute part dans une Europe en ébullition. Les ouvriers, premières victimes de la révolution industrielle, cherchent à s'organiser devant un capital effréné qui dévore tout sur son passage. Karl Marx est journaliste et jeune philosophe de 26 ans, est victime de la censure d'une Allemagne répressive et va s'enfuir à Paris avec sa femme. Et là, il va faire une rencontre décisive avec Friedrich Engels. Entre parties d'échecs endiablés, nuit d'ivresse et débats passionnés, eh bien, ils vont construire ensemble ce qui va devenir la Bible, le manifeste du Parti communiste.
Voilà, et donc le cinéaste haïtien Raoul Peck voulut un peu s'écarter de la figure qu'on a tous de Karl Marx, c'est-à-dire cette espèce de vieux monsieur avec la barbe blanche, un peu hirsute, et donc du pavé Le Capital, que tout le monde a essayé de finir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Et donc, non, pour vous dire, le jeune Karl Marx, vraiment pour revenir aux origines, effectivement. Donc, on suit, effectivement, les pérégrinations qui vont donner, à la fin du film, donc, le manifeste du Parti communiste. Alors, à la fois...
Un peu pédago, hein.
Alors, très pédago, c'est-à-dire c'est un peu le problème du film. C'est-à-dire qu'à la fin, on sent que Raoul Peck, même dans ses intentions, veut replacer le politique, ce qu'il avait fait d'ailleurs avec son documentaire.
En miroir avec ce qui se passe actuellement. Ouais.
Exactement, mais avec I Am Not Your Negro, qui était un documentaire fabuleux sur James Baldwin, il veut replacer la parole politique et dire ils ne sont pas tous pourris, les politiques. Regardez, il y a eu des vraies figures. Alors là, effectivement, on frôle l'académisme, même d'ailleurs, on l'approche de très très près. C'est un petit peu dommage. Le dialogue parfois est un petit peu sentencieux, mais ils arrivent quand même à s'en défaire pour filmer aussi l'intime. Il faut dire que c'est Pascal Bonitzer qui a aidé Raoul Peck à écrire ce film. Ouais. Donc voilà, on est un petit peu partagé. C'est vrai qu'on avait parlé des biopics ici même, et on parlait parfois avec les seconds rôles de personnalités connues, c'est toujours un peu ridicule. Là, c'est Olivier Gourmet qui s'en charge, il incarne Proudhon.
Voilà. Money, alors ça c'est un film de Djela Babuani qui avait déjà signé 13 Tzameti. Fatigués de leur fin de mois difficile, trois jeunes sans avenir voient l'opportunité de gagner beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre, mais sans savoir que ce notable est un secrétaire d'État corrompu. Alors, c'est un film noir, français, chouette, hein, au Havre, pour décrire un peu les différences entre les riches et les pauvres.
Secrétaire d'État qui est au Havre.
Non, mais pas du tout, qui est devenu Premier ministre même.
Mais oui, alors c'est...
Mais c'est pas très cohérent, pas très crédible, mais quand même, il y a une succession scénaristique assez excitante.
Et là, on touche à quelque chose de particulier. C'est-à-dire que le polar, on admet les quiproquos dans un polar, mais il faut que ce soit crédible pour que ça fonctionne.
Oui.
C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que sinon, le spectateur décroche, il dit, mais c'est pas possible, l'argent n'était pas là et tout ça. Ce qui fonctionne, à contrario, en comédie. C'est-à-dire qu'on s'en fout finalement du réalisme. Alors ça, c'est un peu le problème du film. C'est-à-dire qu'à la fois, il a envie de jouer avec un scénario, il a envie de jouer avec des situations qui frôlent parfois le ridicule, et on se demande si le cinéaste assume totalement ça. Il y a certaines scènes où on sent effectivement qu'il veut jouer avec des petits ressorts un peu comiques, mais c'est pas vraiment le ton du film qui veut rester très noir. Alors après, il y a une interprétation qui est bonne, mais surtout Le Havre, qui sert de décor derrière. Alors Bertrand Tavernier pourrait nous citer tous les films qui pourcadrent Le Havre, à commencer par Quai des Brumes, mais sûrement fait en studio. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu 38 témoins, notamment de Lucas Bellevaux, qui était formidable. Et c'est vrai que ça donne du coup du corps, vraiment, au film, qui en manque un peu, a souligné quand même une apparition de Benoît Magimel en tueur à gages, pas piqué des hannetons.
Un peu grossi.
Un
fort,
peu grossi, oui.
Bonne silhouette. Espèce menacée de Gilles Bourdeau, celui-là vous ne l'avez pas vu, c'est Trois destins familiaux, tiré de nouvelles de l'américain Richard Bausch. Alors il y a Joséphine et Thomas, la vingtaine qui viennent de se marier. Le film commence sur leur nuit de noces, dont on décèle déjà le drame de la jalousie qui va se jouer. Et puis la jeune Mélanie qui annonce à son père qu'elle attend un enfant et va épouser son compagnon de 63 ans. Et enfin, Anthony, étudiant, qui doit s'occuper de sa mère en crise alors qu'il tombe amoureux de son aide-soignante. Pas de lien vraiment entre ces histoires, si ce n'est la famille. Et malheureusement, on n'est pas Robert Altman qui veut. Trois histoires fabriquées pour n'en raconter finalement qu'une seule vraiment. Cette femme battue sous l'emprise et les coups de son jeune mari tyrannique. Pourquoi avoir fait un film pour ne raconter finalement qu'une seule histoire, puisque les deux autres font pâle figure à côté de celle-là. Mais bon. Stupid Things, premier film de l'américain Aman Abazi, l'été d'un jeune garçon afro-américain de 13 ans. Son grand frère vient d'être abattu. Il traîne sa tristesse et sa mélancolie entre son désir d'enfance et son désir d'intégrer un gang local, le tout dans un contexte désespéré. Pauvreté, chômage et famille disloquée. Un vrai film indépendant américain.
C'est-à-dire que là, se pose la question de savoir, le festival de Sundance a eu vraiment des vertus, mais on peut se demander comment il a un peu, au final, formaté certains cinéastes qui ont une idée très précise de ce qu'on doit attendre d'un film indépendant américain. Ouais. Alors c'est assez un procès assez injuste à faire comme Aman Abbasi. Lui, il s'inspire en fait d'un fait divers qui est arrivé à Little Rock, Arkansas. Il vient de là. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui est mort sous les balles d'un gang. Son frère, 13 ans, va intégrer ce même gang. Et voilà. Alors c'est un film format 4 tiers, une espèce de très avec beaucoup d'affaîtrie autoriste. Oui. On pense à Gus Van Sant, mais la question que pose le film, c'est entre la douceur de la mise en scène et la violence qu'il raconte, est-ce que ces deux-là se rencontrent ? Pas toujours.
C'est contemplatif et il contemple aussi.
Il se regarde, alors il est jeune, il va falloir qu'il confirme, fasse ses preuves à l'examen.
On va terminer par un coup de cœur que vous avez eu, je suppose que nos deux invités le connaissent très bien, c'est le coffret Pascal Thomas.
Oui, c'est une vraie découverte ou redécouverte, c'est un coffret que sort TF1 Vidéo, c'est les premiers films de Pascal Thomas, donc qui courent sur la période de 73 à 89, avec des films Pleure pas, la bouche pleine, Le chaud lapin, La surprise du chef, Confidence pour Confidence. C'est un film qui ausculte la famille, le couple français dans les années 70 jusqu'au début des années 90. C'est très intelligent et moi, parmi tous ces films, il y en a un qui m'a vraiment plu, car là, pour le coup, qui est une vraie découverte, c'est La surprise du chef avec un certain Papinou. Alors peut-être que Bertrand Tavernier sait qui est Papinou. Ben voilà, il dit oui. Papinou, c'est le héros du film qui s'appelle aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on revient avec ses noms d'acteurs, même dans le cinéma des années 50 où parfois il y avait juste un nom Il est très drôle. C'est une espèce de comédie brillante et intelligente, en fait, sur deux hommes que tout oppose. Voilà, Piala adorait le film et adorait Papineau.
Il est édité chez qui, ce coffret?
TF1.
TF1 vidéo. On va finir par deux cadeaux pour nos invités. Je vais commencer par vous, Bertrand. Le feu sacré de Arthur Joffé, le réalisateur de Harem et de Alberto Express, entre autres.
Je le connais, c'est un film tout à fait autobiographique. Oui. C'est où il explique qu'il n'arrive pas à faire de film.
Exactement. Oui. Mais c'est pas du tout larmoyant, ni revanchard. Au contraire, c'est plein de vie et truffé de témoignages drôles et vraiment sensibles. Et pour vous, Antoine Debecq, on parlait du Havre, justement, et l'autre côté de l'espoir, mais si, c'était tourné là-bas aussi, je pense. Il y avait le Havre de Coris Maki avant.
Voilà, c'est ça, le Havre de Coris Maki. Non, celui-là, Helsinki,
bien sûr.
C'est pareil que le Havre.
Oui, c'est pareil, absolument.
C'est le Havre avec de la vodka.
Coris Maki, c'est que... Il transforme toute ville en Havre.
Oui, c'est ça, mais pas forcément Havre de paix. C'est deux destins, un jeune réfugié syrien et le patron d'un restaurant, sobriété, rigueur, dignité et humour, comme toujours, chez Coris Maki. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous.
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rappeler la sortie de votre livre, Jean-Pierre Melville, Une vie aux éditions du Seuil, et un coffret également avec la presque intégralité, sauf la nuit des fers chauds de Melville. Et pour vous, Bertrand, vos 8 nouveaux épisodes à travers le cinéma français sur Ciné+, à partir d'octobre.
Et qui seront présentés au Festival Lumière.
Ah ben voilà, à Lyon, voilà. Très bien.
À Lyon.
Voilà. Merci. La semaine prochaine, 2 Laurent, un Delmas, un Cantet et une Laurence, Ferreira Barbosa. Générique avec vous, Bertrand et Antoine, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Bertrand Tavernier, j'y étais.
Et moi, Antoine Debecq, j'y étais.